vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Mais vous aimez Éric Rohmer, et bien écoutez, ça tombe bien parce que justement, je vais me focaliser sur Éric Rohmer. Nous sommes le 11 janvier, si je ne m'abuse. Et bien justement, il est décédé un 11 janvier, il y a 6 ans, en 2010. Il avait 90 ans. Éric Rohmer, c'est un personnage très singulier, réservé. Il laisse une œuvre très originale, cohérente, et c'est l'occasion évidemment de retracer en quelques mots sa carrière qui est faite d'un peu moins de 30 films et qui s'inscrivent dans des séries. Alors je me focaliserai peut-être un peu plus sur L'ami de mon ami qui appartient à la série Comédies et Proverbes. C'est le dernier film des Comédies et Proverbes, films qui ont été réalisés entre 1978 et 1987. Voilà. Et donc L'ami de mon ami ferme ce cycle. Alors Rohmer, qui est Rohmer? Eh bien Rohmer, c'est d'abord un homme de lettres, qui est venu au cinéma en commençant par la critique de films et notamment dans une revue que vous connaissez, il s'agit des Cahiers du cinéma. Je crois même qu'il a été le rédacteur en chef de 1957 à 63 à peu près. Et donc, inutile de dire qu'il était très ami de tous les réalisateurs que l'on retrouve dans la Nouvelle Vague, en particulier Chabrol, Godard. D'ailleurs, il a écrit beaucoup de scénarios avec Godard, notamment Tous les garçons s'appellent Patrick. C'est un film de Godard, mais le scénario est écrit par Éric Rohmer. Alors, il commence son œuvre très personnelle par une série, comme je vous le disais, qui s'intitule « Six contes moraux ». Alors, l'idée n'est pas de faire la morale, hein, parce qu'un moralisateur, à l'époque, c'était plutôt quelqu'un qui parlait, qui réfléchissait sur lui-même. Donc, ce sont des films où on réfléchit sur soi-même. Et donc, parmi les contes moraux, c'est toujours, on peut dire toujours, je crois, l'idée de ces contes moraux, c'est la recherche pour un narrateur extérieur d'une femme, et qu'il finirait par trouver, lui revenir, après avoir été troublé par une autre. Ça veut dire qu'à chaque fois, il y a cette espèce d'idée, j'en laisse une, mais en même temps, j'y reviens, voilà. Et donc, c'est dans ce cadre-là, enfin, que l'on peut citer notamment La collectionneuse, qui était avec une très belle comédienne, Heidi, qui avait été tournée en couleur, sous le soleil du midi. C'est un film, La collectionneuse, qui avait eu le prix spécial à Berlin. Et puis, parmi ces contes moraux, il y avait Le genou de Claire, avec Ariel Dombal, L'amour l'après-midi, qui a eu pas mal de succès, et puis Ma nuit chez Maude. Ma nuit chez Maude, qui était avec Françoise Fabian, Trintignant et Marie-Christine Barrault. Mais écoutez, à ce propos, Ma nuit chez Maude, je vous propose d'écouter, parce que c'est le cinéma de Rohmer, et ça tombe bien pour la radio, c'est un cinéma très très parlé. Quelquefois, on lui en a fait le reproche en disant « c'est trop bavard ». Ben non, il avait des choses à dire, je crois. Ses dialogues sont pas inintéressants et je vous propose toujours d'en écouter. Je vous propose d'en écouter un extrait.
Moi ici, moi aussi dire jamais, toi. C'est la première fois que j'y mets les pieds. Et c'est ici précisément que nous nous sommes rencontrés. C'est étrange. Non, au contraire, c'est tout à fait normal. Nos trajectoires ordinaires ne se rencontrant pas, c'est dans l'extraordinaire que se situent nos points d'intersection. Forcément. Actuellement, j'ai fait des mathématiques à temps perdu. Ça m'amuserait de définir les chances que nous avions de nous rencontrer, disons, en moins de 2 mois.
Tu crois que c'est possible?
C'est une question d'information et de traitement de l'information. Encore faut-il que l'information existe. La probabilité que j'ai de rencontrer une personne dont je ne connais ni le domicile, ni le lieu de travail, est évidemment impossible à déterminer. Tu t'intéresses aux mathématiques?
Un philosophe a de plus en plus besoin de connaître les mathématiques. Par exemple en linguistique, mais même pour des choses les plus simples. Le triangle arithmétique de Pascal est lié à toute l'histoire du Paris. Et c'est même par là que Pascal est prodigieusement moderne. Le mathématicien et le métaphysicien ne font qu'un.
Ah tiens, Pascal.
Ça t'étonne?
C'est curieux, je suis justement en train de le relire en ce moment.
Et alors?
Je suis très déçu.
Mais dis, continue, ça m'intéresse.
Non, je ne sais pas. D'abord, j'ai l'impression de le connaître presque par cœur, et puis ça ne m'apporte rien. Et puis je trouve ça assez vide.
Oui. Dans la mesure où je suis catholique, ou tout au moins j'essaie de l'être, ça ne va pas du tout dans le sens de mon catholicisme actuel. C'est justement parce que je suis chrétien que je m'insurge contre ce rigorisme. Ou alors, si le christianisme, c'est ça, moi je suis athée. Tu es toujours marxiste ?
Précisément pour un communiste, ce texte du Paris est extrêmement actuel.
Au fond, moi, je doute profondément que l'histoire ait un sens. Pourtant, je parie pour le sens de l'histoire. Je me trouve dans la situation pascalienne. Hypothèse A, la vie sociale, toute action politique est totalement dépourvue de sens. Hypothèse B, l'histoire a un sens. Je ne suis absolument pas sûr que l'hypothèse B ait plus de chances d'être vraie que l'hypothèse A. Je vais même dire qu'elle en a moins. Admettons que l'hypothèse B n'a que 10% de chance et l'hypothèse A 90%. Néanmoins, je ne peux pas ne pas parier pour l'hypothèse B, parce qu'elle est la seule, celle, je veux dire que l'histoire a un sens, parce qu'elle est la seule qui me permette de vivre. Admettons que j'ai parié pour l'hypothèse A, et que l'hypothèse B se vérifie, malgré ses 10% de chance seulement. Alors j'ai absolument perdu ma vie. Donc je dois choisir l'hypothèse B parce qu'elle est la seule qui justifie ma vie et mon action. Naturellement, il y a 90% que je me trompe, mais ça n'a aucune importance.
C'est ce qu'on appelle l'espérance mathématique, c'est-à-dire le produit du gain par la probabilité. Dans le cas de ton hypothèse B, la probabilité peut être faible, mais le gain est infini. Puisque c'est pour toi le sens de ta vie, et pour Pascal le salut éternel.
C'est Gorky ou Lénine ou Mayakovsky, je ne sais plus, qui disait, à propos de la révolution russe, à propos de la prise du pouvoir, que la situation était telle à ce moment-là qu'il fallait choisir la chance sur mille, parce que l'espérance en choisissant cette chance sur mille était infiniment plus grande qu'en ne choisissant pas.
Oui, alors bon, bah écoutez, vous voyez le style de Romère, enfin, notamment dans Ma nuit chez Maud. Il faut savoir quand même que, je vous disais que Romère, qui s'appelait en réalité Maurice Scherrer, hein, et qui était né, il était corrézien, et il avait fait un baccalauréat de mathématiques et de philosophie en 1937, peut-être ceci explique cela. Et puis ensuite, il avait fait de belles études, on va dire, au lycée Henri IV. Il avait même été dans la même, promotion de Maurice Clavel et de Jean-Louis Borry. Vous savez, Jean-Louis Borry qui s'extasiait, enfin, qui était critique de cinéma, tout à fait intéressant. Et puis ensuite, je crois qu'il a essayé d'être prof, il a fait le CAPES. Enfin, bon, voilà, c'est quelqu'un qui intellectuellement aimait bien faire travailler son cerveau. Quoi. Voilà, la chose est quand même assez rare, ça mérite d'être souligné. Alors, ce que vous venez donc d'entendre, c'est un extrait de Ma nuit chez Maud qui a été tourné en son direct, ce qui est très rare parce que la plupart du temps, on filme en son. On va faire un son témoin et ensuite on post-synchronise, on double. C'est le doublage en studio, même des films français. Et là, c'est un des premiers films qui a été tourné, donc on est en 1900, le film est sorti je crois en 69 exactement, et donc on tourne en son direct. C'est pour ça que vous entendez d'ailleurs dans le fond, le son, il est intéressant aussi parce que justement il a un côté brut, hein, il n'est pas trafiqué. Moi je trouve que c'est beaucoup mieux parce que maintenant avec le son numérique, on revoit l'autre jour, j'ouvre une parenthèse, pardonnez-moi, mais enfin vous savez que j'aime bien les digressions. L'autre jour, j'ai revu Othello de Orson Welles, donc le film. Il se trouve que j'avais une vieille cassette donc en VHS. Bon, je me suis dit, oh là, ça va être terrible. Bon. J'ai trouvé que l'image, certes, on peut trouver mieux, mais en VHS, ça c'est évident. Mais en revanche, le son était, mais alors, percutant, formidable. Bon. Et chez des amis, j'ai revu le même film numérisé qui est sorti. C'est un film qui a été numérisé, je crois que c'était en 2012. Attendez, alors au niveau du son, c'est une catastrophe. Hein. C'est complètement raplapla de chez raplapla. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez des techniciens qui mixent le son numérique en ne le regardant que le son. Ils ne l'écoutent plus. Ils voient, alors ils disent, oh là là, là, c'est allé presque dans le rouge, alors j'écrète un peu. Et alors, tout d'un coup, vous avez une bande qui veut plus rien dire, quoi. Mais alors là, moi, j'ai été frappé. Hein. Alors là, ayant vu les deux versions, le son qu'avait voulu... Et c'est beaucoup plus celui que j'ai entendu sur ma VHS. Hein. C'est-à-dire, c'est un son fulgurant qui vient vous réveiller, quoi. Et voilà. voilà, et ben maintenant on fait des sons un peu aseptisés, un peu comme la vie que nous vivons, un peu aseptisés. Alors bref, tout ça, pardon, je referme la parenthèse, pour dire que donc ce son synchrone qu'on vient d'entendre avec cette ambiance bistrot au fond, c'est assez amusant parce qu'on est presque dans le réel. Alors donc, Manu Chaimot, donc film qui a été... il est sorti en juin 69, il a fallu un peu de temps pour que le film ait du succès, puis c'est arrivé, et à partir du mois de décembre, alors là c'est devenu vraiment, et maintenant c'est un film culte, et c'est un film qui a d'ailleurs été projeté à New York, alors ça ils ont beaucoup aimé, et il avait même été nommé pour l'Oscar du meilleur scénario original, voilà. Alors toujours, je vous ai cité tout à l'heure le genou de Claire, c'est toujours dans les contes Moreau, c'est un film qui avait été tourné au bord du lac d'Annecy en 1971, et on peut dire que, un peu comme déjà avec La collectionneuse, le Romer commence à être assez estimé, voilà, et donc et beaucoup aux États-Unis évidemment. Alors ensuite, il va en faire, après faire les contes des quatre saisons. Et ce sont des films historiques, et avec, alors là, il ose faire des trucs tout à fait étonnants, et notamment, je vous propose d'écouter, c'est dommage que vous ne voyez pas l'image, mais Parseval le Gallois.
Blanc et chenu avancerait Pucelle, que me lasserait de vous servir.
Je suis Perceval le Gallois.
Sire, Gauvin suis appelé.
Si le baiser, elle consent, le surplus, je vous le défends.
Le baiser, je vous baiserai par mon chef. Tant pis pour qui m'en fait grief, car ma mère me l'enseigna.
Moi, je ne te baiserai pas.
D'un si doux. Suave baiser.
Vos sire, venez près de moi. Parce que noble et beau vous voit.
Alors, la demoiselle vient, qui de lui grande joie démène.
Et tant de courtoisie lui fit, qu'entre ses deux bras il la prit, à son tour, et vers lui l'attire.
Perceval. Qui le tenait?
Une pucelle.
D'où venait?
Un Graal entre ses deux mains, une demoiselle tenait. Qui, avec les valets, venait?
Chevalier, ôtez donc vos armes avant que je ne vous désarme. Si vous dites encore un mot, je vous frapperai aussitôt.
Allez, oui. Si ta vie est longue, il n'y aura par tout le monde nul meilleur chevalier que toi. C'est ainsi que je pense et crois.
Le chevalier sans nul arrêt va chevauchant par la forêt.
Voilà, alors évidemment, c'est un film tout à fait particulier, un peu kitsch, mais sympa. C'est vrai que ça nous ferait plaisir de le revoir. Hein, avec, évidemment, vous l'avez entendu, la voix de Lucchini. De Fabrice Lucchini, de Dariel Dombal, voilà. Et tout à l'heure, évidemment, dans Manu Chaimot, enfin, vous l'aviez reconnu, c'était Jean-Louis Trintignant. Alors, il y avait aussi Françoise Fabian, et puis, oui, je vous l'ai dit, je crois, Marie-Christine Barrault. Alors, mais revenons à nos proverbes, donc comédies et proverbes. Il les fait à peu près des années 78, 80 jusqu'à 90, en gros, hein, voilà. Et donc, ça traite toujours du sentiment amoureux. Ça, c'est quelque chose qui est très fréquent dans toute l'œuvre de Romer. On peut dire, d'ailleurs, on a toujours assimilé l'œuvre de Romer à Marivaux. Il y a beaucoup de marivaudage, mais très contemporain. contemporain, très intellectualisé, mais en même temps, c'est du maraudage. Alors, pour citer quelques films donc, qui font partie de cette série Comédies et Proverbes, vous avez en 78 « On ne saurait penser à tout ». Il y avait « La femme de l'aviateur ». En 81, vous avez « Le beau mariage ». C'est adapté d'une morale de La Fontaine. « Quel esprit ne bat la campagne qui ne fait châteaux en Espagne ?» Voilà, donc c'est à partir de là qu'il a effectivement élaboré son film « Le beau mariage ». En 82, il y a « Pauline à la plage ». Alors, « Pauline à la plage », eh bien, là aussi, c'est toujours tiré d'un, puisqu'il disait « Comédies et proverbes », tiré d'un proverbe de Chrétien de Troyes qui « Trop parole, il se méfait ». Qui trop parole, il se méfait. Donc c'est un film qui a obtenu l'Ours d'Argent en 1983. Il a été considéré comme le meilleur réalisateur. En 84, il fait aussi Les Nuits de la Pleine Lune. Et là aussi, c'était tiré d'un proverbe champenois qui disait « À deux, donc qui a deux femmes, perd son âme, qui a deux maisons, perd sa raison. » Voilà. Donc là encore, c'est vrai que ça, voilà, ça pourrait être un sujet de baccalauréat. On donne un proverbe et on demande d'élaborer tout d'un coup un scénario. Et en 1986, alors là, il y a eu Le Rayon Vert, qui a eu le Lion d'Or à Venise. Et là aussi, il est parti d'un vers de Rimbaud, « Ah, que le temps vienne où les cœurs s'éprennent. » Voilà. Donc, vous l'avez compris, Romère est quand même très, très particulier, intellectuel, poète, voilà, et donc bah oui, ça fait plaisir aussi. Et puis je vous le disais tout à l'heure, terminant ce cycle, il y a L'ami de mon ami, et ça se base sur l'idée l'ami de mes amis, l'ami de mes amis est mon ami. Bon, on s'aperçoit que c'est pas toujours le cas, mais enfin bon, c'est un proverbe qui était le point de départ du film. Alors c'est un film, ce qui frappe d'ailleurs dès les premières images de ce film, c'est le décor. C'est une ville blanche, c'est Cergy Pontoise, je crois, une ville blanche propre, de béton, d'acier, de verre. Et c'est c'est une ville qui joue à la fois sur l'ouverture et l'enfermement, et avec des personnages qui s'y bougent, qui s'y meuvent et qui arborent par leurs vêtements, leurs couleurs et leur état d'âme. C'est-à-dire que d'emblée, le ton est donné et nous sommes dans un univers à la fois réaliste et subjectif. Et la caméra qui va suivre les protagonistes de cette histoire, une histoire de chasse et croisée amoureux, va prendre du recul pour nous donner à voir et à entendre les erreurs, les frustrations, les envies de ce quatuor qui est parfaitement orchestré comme par une petite bonne femme qui s'appelle Adrienne. Et Adrienne qui, mine de rien, manipule, comme le fait d'ailleurs un réalisateur. C'est-à-dire, c'est presque le double de Romère. Il filme d'ailleurs avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de malice et un brin de cruauté, on va dire, mais de la cruauté élégante. Et il filme ce petit monde qui bouge, il les bouge comme des pions sur un échiquier, l'échiquier de la vie amoureuse. Je vous propose tout de suite d'écouter la bande-annonce de L'ami de mon ami.
Il ne te plaît pas ?
Il t'intéresse vraiment, ce mec ?
On dit qu'il plaît aux filles et on s'étonne qu'il me plaise.
Je peux vous raccompagner si vous voulez ?
Non, mais il y a un train dans 2 minutes.
Non, mais attendez, j'en ai pour un instant. Oh, j'ai rien compris, qu'est-ce qu'elle a ?
Simplement la panique.
La panique, pourquoi ?
Bon, écoute, tu sais très bien, fais pas semblant.
Elle a peur de moi ? Ah bon ?
L'horreur de ce genre de mec qui attend qu'on lui tombe dans les bras.
Vous allez à Paris ?
Bah oui, tout à l'heure.
J'y vais, je peux vous conduire si vous voulez.
Bah, c'est-à-dire que je...
Vous avez votre voiture ?
Oui, mais en fait, j'y vais par le train.
Eh ben, vous rentrerez par le train.
Oui, mais j'aurais voulu repasser chez moi avant, enfin...
Vous habitez loin ?
À Saint-Christophe.
Et vous en avez pour longtemps
Oh non, pas forcément.
Écoutez, je sens que je vous complique la vie. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.
Elle est vraiment bizarre, cette fille. T'as pas l'air de vouloir de Fabien. Honnêtement, je ne saurais pas de te refiler Alexandre parce que lui, c'est encore moins ton genre. Comme sont les deux seuls mecs à peu près baisables ici, cherche ailleurs, le monde est vaste.
Je te trouve très jolie.
Pas aussi jolie que Léa. Les amis de mes amis, c'est sacré pour moi aussi. Vous avez couché ensemble ? Ah ben, ma vieille. Si je m'attendais pas à quelque chose, c'était à ça. Bonjour. Bonjour.
On part demain en vacances.
Et nous aussi.
Voilà donc la bande-annonce du film « L'ami de mon ami » de Éric Rohmer. Éric Rohmer, donc, comme je vous le disais à l'instant, si je vous parle de lui, c'est parce qu'il est mort il y a 6 ans, exactement, jour pour jour, le 11 janvier. Et alors donc, dans ce film « L'ami de mon ami », donc le scénario écrit par Rohmer, dialogue écrit par Rohmer, et ce sont des dialogues qui, effectivement, pourraient être des dialogues de théâtre. Mais ça met en valeur les personnages qui parlent. Et c'est intéressant parce qu'ils parlent et en même temps, ils essaient d'expliquer leurs états d'âme, mais ils se trompent sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vivent leur jeu amoureux avec une certaine jubilation et même s'ils versent quelques larmes, quoi. C'est-à-dire qu'on a le plaisir aussi de se faire un peu mal. C'est un film qui, à mon sens, d'ailleurs, devrait plaire aux nouvelles générations. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on aime parler. On parle, on fait des monologues. Avant, c'était « je pense, donc je suis ». Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt « je parle, donc je suis ». Je parle, voilà. Et donc, ça va très bien avec les réseaux sociaux. On dialogue pas, mais on parle, voilà. Donc, je pense que là, c'est un peu ça. Au fond, il était un peu précurseur. Tous les gens parlent de ce qu'ils... Et surtout, ce qui est très frappant, c'est qu'ils expliquent leurs états d'âme et on s'aperçoit qu'ils vivent exactement le contraire de ce qu'ils imaginent, quoi. C'est-à-dire, ils se trompent complètement sur eux-mêmes, voilà. Donc, bref, la première rencontre dans la ville de Cergy, puisque je vous le disais, c'est la ville de Cergy qui est filmée tout en blanc, une très très belle ville à l'époque qui vient d'être construite. Il faut dire que Rohmer aime beaucoup l'architecture parce qu'on ne sait pas ce que c'est quand on voit au début cette architecture. Il y a Blanche qui travaille dans les affaires culturelles, en plus elle s'appelle Blanche, et puis Léa qui est une étudiante en informatique. Elles sont toutes les deux en bleu et elles évoquent le décor dans lequel elles évoluent et elles s'interrogent. C'est une caserne? C'est un palais? C'est un grand hôtel? Ben oui, on n'a pas la réponse. Et c'est vrai que dans ces grands ensembles comme ça, c'est assez époustouflant parce qu'on trouve que c'est à la fois beau et moche en même temps. Et je vous le disais, Rohmer, il aime l'architecture et il veut démontrer que ces grands complexes de villes nouvelles peuvent avoir le charme de petits villages. Parce qu'en effet, quand à un moment les gens se retrouvent parce qu'ils sont dans une galerie marchande, voilà, ils sont là tout d'un coup, il peut y avoir ces rencontres. Les rencontres peuvent se faire aussi dans ces grands ensembles. Mais quand même, dans le film « L'ami de mon ami », on s'aperçoit quand même que l'amour, le véritable, enfin je ne sais pas s'il y a un véritable amour, mais en tout cas, il naît plutôt dans la nature, dans la forêt, et notamment dans le creux d'une boucle. On est au bord de l'Oise, et là tout d'un coup, on fait des rêves, ou tout d'un coup, on est dans la nature, quoi. On n'est pas dans cette pierre, et dans ce paysage d'acier et de verre. Et là, on s'aperçoit aussi que les amis se ressentent, sans s'assembler, enfin bon, on s'aperçoit que Blanche, donc cette jeune femme qui travaille dans les affaires culturelles, elle est seule, elle est dans son bureau, dans le cadrage de sa fenêtre, vous voyez, et puis là, tout d'un coup, c'est peut-être la seule qui change de couleur, elle a des robes qui quelquefois sont du jaune ou du rouge, son appartement est blanc, ses meubles sont blancs, Blanche, eh bien elle reste blanche, elle est muette, et elle est muette devant l'objet de son désir, c'est-à-dire elle parle beaucoup, mais quand elle est là devant ce jeune homme, Alexandre, qui est tout à fait son opposé, c'est la raison pour laquelle elle est attirée par lui. Tout le monde lui dit qu'il est exactement à l'opposé de ce qu'elle est. Et elle est complètement muette devant l'objet de son désir. Et tout ce qui est amusant, évidemment, dans ce conte, c'est que chacun a un discours qui dément complètement la vérité. Quand, par exemple, Léa dit que Fabien n'est pas prévenant, eh bien, elle avoue qu'elle aime être prise en charge. Et donc, elle aime quelqu'un qui ne la prend pas en charge. Voilà. Et donc, tout est comme ça. C'est pour montrer la complexité, évidemment, des sentiments. Et ça, Éric Rohmer sait parfaitement le faire. Alors, je vous disais tout à l'heure, c'est Adrienne, donc un des personnages, qui va manipuler, mettre en scène et encadrant mieux ses acteurs. Donc, elle dit « Blanche, tu ne vas pas aller chez Alexandre, mais tu vas aller chez Fabien. » Et donc, c'est elle qui transforme cette espèce de microcosme. Et voilà, et la vérité se fera jour dans le film que par un quiproquo. Ça, c'est du Rohmer, c'est du marivaudage. Je prends un qui pour un quoi. Parce que à un moment, Blanche va avouer quelque chose qui va être compris autrement. Il y a comme une erreur de personne et elles sont évidemment les deux premières à s'en amuser. Donc le dialogue est extrêmement savoureux. Notons par exemple Fabien qui parle d'Alexandre. Il parle d'Alexandre. Hein. Sa beauté est banale puisqu'il plaît à tout le monde. C'est une bonne idée ça. Hein. Sa beauté est banale puisqu'il plaît à tout le monde. C'est pas faux. Rohmer joue dans son film sur l'espace. passe et le temps, hein, ça c'est le béaba du cinéma, avec des balades, notamment, je vous le disais tout à l'heure, dans la forêt, et ces balades arrêtent le temps et qui font dire à Blanche « Je suis comme si j'étais dans un pays étranger, comme un voyage dans le temps ». Voilà. Alors évidemment, le personnage de Blanche, c'est vrai que dans le film, il a un peu un côté un peu cuculapralinette, hein, ça je vous le cache pas. Mais en même temps, c'est des gens qui existent dans la réalité. Ces gens qui sont à la fois fragiles et en même temps, c'est une sportive. Et voilà, ce qui la trouble, c'est que Fabien est à bout. Pourquoi elle veut pas aimer Fabien? Parce que c'est l'ami de mon ami. Voilà, mon ami E. C'est l'ami I de mon ami IE. Voilà. Et Fabien, ben, si pourtant elle est très proche de lui, puisqu'il va l'entraîner dans un rêve, et il rêve qu'il rencontre il fait une rencontre dans la forêt avec une fille, et puis ils font l'amour, etc., etc. Et finalement, c'est ce qu'il va se croire, c'est-à-dire que Blanche va le croire et essayer de rendre le rêve, de faire de ce rêve une réalité. Donc la mise en scène de Romère est très fine, très discrète. J'ai envie de dire qu'on ne la voit pas et pour moi c'est un compliment. Mais il joue des cadrages, d'espaces vides, c'est rapide mais en même temps c'était présent. Ça montre le vide de ces rapports surfaits, c'est-à-dire les personnages sortent du champ et on reste là, comme ça, en plan, dans un champ vide. Et tout d'un coup, vous avez notamment le plan final qui est extrêmement bien élaboré, on les voit, il y a Fabien en premier plan avec Blanche, et puis au loin, en contrebas, on voit Alexandre et Léa qui s'éloignent et qui s'apprêtent à traverser un pont. Là, le décor est intéressant, passer de l'autre côté, aller de l'autre côté de la rivière, de changer sa vie, mais le film s'arrête avant. Le feront-ils? On ne sait pas, et donc tout est possible et rien n'est définitif. Et donc le temps qui est présent dans le film est souligné aussi par Blanche, qui dit à un moment à Alexandre, j'aimais une image, mais c'est fini. Et en une seconde, ce qui était blanc est devenu noir. Alors évidemment, ce marivaudage à la Romère, ce marivaudage moderne, peut horripiler. Et les critiques envers Romère ont été extrêmement nombreuses, mais surtout en France. Parce qu'aux États-Unis, au contraire, on aimait beaucoup ça. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que Romère, il n'a eu aucun César. Enfin, vous savez, les Césars, c'est la petite chose qui correspond aux Oscars, mais qui ce ne sont que des Césars. Ça n'a pas grande importance, mais il n'en a eu aucun. Mais Romère, je crois qu'il fallait quand même souligner et se souvenir de ce réalisateur parce que c'est un style. Moi, j'adore les gens qui ont un style et qui continuent, quoi, contre vents et marées. C'est leur truc. Ils ne vont pas vendre leur âme pour plaire à un public. Ils sont là, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, si la parole envahissante montre la stupidité des rapports... il sait aussi parler des silences qui sont des connivences. Romère a donc un style et il le tient. Et donc si la parole envahissante montre la stupidité des rapports, c'est dans les silences qu'existe aussi la connivence. Et ça, c'est peut-être à méditer en ce début d'année. Eh bien, merci Stéphane, et donc, mercredi prochain.